campagne. Bonjour, nous sommes dans le Cher cette semaine. Un petit mot du courrier d'Hélène, habitante de Mentoux-Salon. On rejoindra le jeu des 1000 euros tout à l'heure, qui nous a interpellés sur l'école dans laquelle elle enseigne, à Bourges, puisque cet établissement classé en REP a obtenu le label Éco-École. Le but est d'intégrer le développement durable au programme éducatif de l'établissement, et les bénéfices sont tels que plus de 2500 écoles en France épousent la même démarche à laquelle tout le monde participe, les parents, les enfants, les enseignants et les associations locales. À Bourges, c'est l'école élémentaire du Grand Maulne qui est concernée et qui mériterait, selon Hélène, une meilleure participation de la ville. Voilà, c'est dit. Cette année, le programme sera placé sous le signe de la biodiversité. Il faut savoir que ce label est porté par l'association Terre Agir, anciennement Fondation pour l'éducation et l'environnement. Nos invités sont Marion Fourtune, directrice de Nature 18, qui conduit les communes rurales vers les bonnes pratiques face au changement climatique, et Danilo Proietti, promoteur du programme de revalorisation de l'étrange site de la cathédrale Jean Linard au lieu de l'art brut.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Marion Fourtune, bonjour.
Bonjour.
Marion, vous êtes directrice d'une antenne du réseau, enfin d'une association du réseau qu'on connaît, le réseau national France Nature Environnement, c'est Nature 18 hein, chez vous, dans le Cher, et vous présentez un programme qui correspond aux urgences des changements climatiques, de la gestion de l'eau qui incombe maintenant aux communes à prendre en main. Pour les Français, je lis votre dossier, le changement climatique a un impact à 88% sur le risque d'inondation, 91% sur la faune, la flore aquatique, 88% sur le recul des côtes, et puis 81% aussi sur la qualité de l'eau, des rivières, des lacs et des nappes souterraines. Et décidément, avec ce changement climatique, votre département a bien souffert ces dernières années.
Bah, c'est tout à fait vrai, et c'est de là que vient notre constat. C'est-à-dire qu'on a eu depuis plusieurs années des épisodes d'inondations, de pluies intenses, de coulées de boue, mais aussi en face de ça, des sécheresses intenses ces derniers étés qui ont marqué les esprits. Et c'est vrai que sans renoncer, bien sûr, à lutter contre les changements climatiques, aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il faut absolument commencer à s'adapter et à prendre en compte tous ces éléments-là qui créent quelque part des risques pour la sécurité, pour le bien-être des gens. Et ça commence à les toucher dans leur vie quotidienne. Et du coup, forcément, les maires qui sont au contact des populations vraiment de façon très, très directe commencent à se poser la question de qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Mais c'est vrai que face à ça, ils sont quand même relativement démunis. On sait que les moyens des communes ont beaucoup baissé. Donc voilà, ils ne savent pas forcément vers qui se tourner.
Et le premier objet de souci, c'est l'eau.
Alors, le lien entre le climat et l'eau, effectivement, se fait assez facilement quand on y réfléchit. Le changement climatique va provoquer des événements météorologiques extrêmes. Il y a aussi tout le problème du partage de la ressource en eau entre les besoins de la production agricole, entre les industries, entre... Il y a beaucoup de choses, et il y a aussi la consommation humaine qu'il faut bien sûr préserver, tous les usages de loisirs, la qualité des cours d'eau qui doit aussi être absolument préservée. Et du coup, tout ça fait que le lien entre le changement climatique et l'eau est vraiment très très flagrant et très pertinent, en fait, dès qu'on commence à y réfléchir, y compris dans sa vie quotidienne.
Qu'est-ce que vous préconisez, Marion, aux élus des communes rurales pour s'adapter à ce changement ?
Alors voilà, le projet qu'on va tester à partir de l'année 2019, c'est donc un projet qui s'appelle Objectif Climat 2030, et l'idée, c'est de faire prendre conscience des enjeux, avant tout. C'est-à-dire de faire collectivement, au niveau d'un territoire, donc c'est vrai que le territoire de la commune s'y prête très bien, un état des lieux, des vulnérabilités en fait. Est-ce qu'il y a déjà eu des épisodes d'inondation ? Est-ce qu'il y a des prairies humides qui récemment ont été peut-être délaissées par leurs propriétaires ? Est-ce qu'il y a eu des arrachages de haies dans les dernières années ? Voilà, étudier un peu tous ces éléments-là, qui permet ensuite de réfléchir à un plan d'action sur le long terme. Mais il y a aussi des choses qu'on peut faire dès aujourd'hui.
Ce qui nous effraie de plus en plus, c'est que nos adaptations, et c'est bien ce que vous faites évidemment, sont longues à être mises en place, alors que la menace semble se rapprocher de plus en plus vite.
C'est vrai que malheureusement, dans le domaine de l'adaptation au changement climatique, il faudrait commencer à s'adapter avant de constater les impacts, parce que sinon on risque effectivement de s'y prendre trop tard. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur les gestes quotidiens, on travaille beaucoup sur les solutions basées sur la nature, sur les écosystèmes, sur la sensibilisation, sur le travail en partenariat avec les acteurs très locaux. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, l'urgence à ces échelles-là, c'est vraiment l'adaptation. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que l'adaptation nous permet aussi de répondre aux enjeux de la limitation des émissions de gaz à effet de serre. C'est vrai qu'on parle d'agriculture très extensive qui permettent de maintenir les prairies. On parle de récupérer l'eau de pluie, on parle aussi de réparer les fuites d'eau sur les réseaux, etc. Toutes ces choses qui font qu'en fait, on réduit notre impact sur l'environnement de façon globale.
Mmh. Donc, premier temps, le développement du dispositif Objectif Climat 2030 chez vous, dans le Cher et en région Centre-Val de Loire, la remontée nationale via France Nature Environnement, et puis après, il faut aborder le ministère, là, et vous y allez au pied de biche, vous avez du matériel.
A priori, on veut d'abord prouver qu'on peut mettre en place ce genre de dynamique de façon très positive sur les territoires. Et une fois qu'on aura ces beaux exemples-là, on espère pouvoir effectivement faire évoluer les choses. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec une de nos actions précédentes qui s'appelait Objectif Zéro Pesticides dans nos villes et villages. C'est une action qui a été au départ montée par des réseaux associatifs et qui ensuite a fini par mener à la loi Labbé qui est entrée en vigueur en 2017 pour les communes, qui est entrée en vigueur en 2019 pour les particuliers. Et au final, on se rend compte qu'en montrant que c'est possible, on peut aussi permettre de faire évoluer le cadre au niveau national.
Exact. Et merci de nous en apporter la preuve et l'explication. Nature18.org, faune-cher.org aussi pour les sites utiles si vous voulez voir les actions dirigées par Marion et son équipe. Merci Marion.
Ben merci à vous.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand. Sur France Inter.
Un mot sur la calandre, rien à voir avec la voiture, ça s'écrit A-C-A-L-A-N-D-R-E, ça signifie en vieux berrichon, chant de la cigale, d'après nos confrères du Berry Républicain, qui annonce la prochaine ouverture d'une bouée de sauvetage dans le village de Régny, 260 habitants. Il s'agit du café associatif culturel, qui va donc s'appeler la calandre. Ce qu'on aime bien, c'est le président de l'association et le maire de la commune, et les murs appartenant à la commune, ceci explique cela, et on apprécie donc la participation des élus eux-mêmes au projet qui nécessite une grosse rénovation du bâtiment. Et puis, bravo au nombre d'adhérents qui va bientôt atteindre le nombre d'habitants. Danilo Proietti, bonjour.
Bonjour.
Danilo, membre de l'association autour de la cathédrale de Jean Linard. Et on va parler d'un projet de développement et de pérennisation du site avec la création d'une société coopérative d'intérêt collectif. Un petit rappel, Jean Linard était céramiste et s'était installé à côté de Neuvy-de-Clocher.
Oui, oui, oui. En fait, surtout à côté de La Borne, qui est un village potier très connu pour les amateurs de la céramique, évidemment. Donc c'est la raison pour laquelle il s'est installé là-bas avec sa femme Anne Cashgard, qui était elle aussi potière. Et donc ensemble, ils ont d'abord construit la maison avec de la récupération principalement. Et ensuite, il a eu cette idée de faire sa cathédrale, que je le rappelle pour ceux qui connaissent pas, c'est pas une vraie cathédrale. C'est un jardin décoré avec des sculptures en mosaïque, toujours issues soit de la récupération, soit du carrelage qu'il fabriquait lui-même. Et c'est un hommage à tout ce qu'il aimait dans la vie. Donc il n'y a pas que la religion chrétienne, il y a toutes les religions. Il y a des poètes, des artistes qui l'ont inspiré, des hommes comme Mandela, Martin Luther King. Donc c'est un hommage à la vie, en fait.
Et on pense aussi au facteur cheval, évidemment.
Évidemment, il était très inspiré de tout le courant de l'art brut, donc Factor Cheval, Picassiette, Robert Tatin, etc.
Il y avait des messages, or Prévert, la connerie...
Quelle connerie la guerre, oui.
Quelle connerie la guerre,
ouais, c'est ça. On franchit le portail de la cathédrale, parce qu'il y a quand même un portail, même si après le toit c'est le ciel. Un des premiers triangles qu'on voit, c'est ce triangle-là où il y a marqué cette phrase.
Jean Linard va décéder en 2010.
C'est ça. Et donc il laisse un héritage un peu difficile à sa famille, il a eu plusieurs enfants, qui en fait ensemble ils ont décidé de mettre en vente parce qu'ils n'avaient pas trop les moyens de s'occuper de ça. Donc on a lancé une pétition à l'époque qui a touché un peu le ministre de la Culture, ce qui a fait que rapidement ça a été inscrit au monument historique. Et donc l'association qu'on a créée par la suite s'occupe du site à partir de 2012, avec toute une série d'événements, des concerts, des spectacles, des résidences d'artistes, etc.
Oui. Mais à qui appartient le site, Danilo ?
À l'indivision Linard, à tous ses enfants et sa dernière femme. Et ce qu'on imagine, nous, c'est de le transformer en bien commun. Et on a trouvé le dispositif de la société coopérative d'intérêt collectif intéressant parce que tous ceux qui veulent s'y impliquer et en profiter en même temps, donc ça peut être les citoyens, des salariés, les collectivités locales, des bénévoles aussi. Et donc voilà, on essaye de faire rejoindre tout le monde autour de cet intérêt collectif pour rendre la cathédrale un bien commun, donc quelque chose d'ouvert qui appartient à tout le monde et tout le monde peut s'y investir et en profiter en même temps.
Mais est-ce que vous auriez la possibilité de faire l'acquisition du domaine ?
Eh bien, il faut trouver suffisamment de, de participants à ce projet. Donc tout le monde peut acheter une part, ça sert à 20 euros la part. Bien sûr, si on peut mettre plus, on achète plus de parts. Peu importe le nombre de parts qu'on achète, on a toujours une voix à l'AG, c'est la gouvernance coopérative. Et donc on espère, avec le soutien aussi des collectivités locales, de lever suffisamment de fonds pour faire une proposition à la famille à la fin de l'année.
Et comment la famille voit-elle ce projet ?
Il y a des... Voilà, tout le monde encore a une idée, je crois qu'ils attendent un peu de voir comment ça se passe. Il y en a qui sont plus pour, sachant que la dernière fille, par exemple, fait partie de l'association qu'on a fondée à l'époque.
D'accord.
L'autre, ils attendent un peu de voir comment ça se passe, et on verra.
Voilà. Oui, parce que Danilo, pour l'instant, le site est visité en moyenne par 7000 personnes par an. En développant, comme vous voulez le faire, un pôle culturel et touristique à cet endroit, on peut imaginer davantage de visiteurs. La famille peut se dire, il y a une manne à prendre, on va en profiter et on va en faire une entreprise privée avec nos employés.
Alors, ils pourraient s'intégrer à ce projet tranquillement. Après, faire une entreprise familiale, ils n'ont jamais évoqué ça. Donc, ils n'ont pas la volonté, je crois, non.
D'accord, tant mieux. Alors, ce lieu, monument historique depuis 2012, est un lieu d'histoire, d'art brut, singulier, extraordinaire. Si vous voulez participer, il y a un fonds de dotation qui est prévu pour financer la restauration, la rénovation de la cathédrale et soutenir d'autres projets via la SIC, comme vous l'avez précisé. Donc, il suffit d'aller sur le site cathédrale-linard.com et sur la page Facebook « Sauvons la cathédrale de Jean Linard ». Merci Danilo, grazie mille.
Prego.